Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour le 12e anniversaire de sa présence à l'antenne d'Europe 1, Franck Ferrand nous propose aujourd'hui une émission un peu particulière. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Cela fait 12 ans en effet et je voudrais en profiter pour saluer Muriel Hesse et Jérôme Bellet qui à l'époque ont eu l'audace de confier le micro au grand débutant que j'étais. Vous savez, je n'ai jamais fait de radio avant d'arriver comme ça sur Europe 1. Vous parlez d'une émission un peu particulière, Ombline, c'est surtout vrai de mon point de vue, puisque je reçois cet après-midi un grand ami dans la vie, Stéphane Bern, pour la réédition de son remarquable ouvrage sur la reine Amélie de Portugal. J'en suis d'autant plus ravi que nous n'avons pas tellement d'occasion avec Stéphane de faire émission ensemble, si je puis dire.
Et tout à l'heure, un peu avant 15h, vous répondrez à la question de Florent sur l'origine des dames d'honneur dans les cours royales.
Bah autant dire que c'est une question plus pour Stéphane que pour moi. Pour le moment, c'est une très grande dame qui nous attend dans les douceurs nostalgiques de son exil versaillais.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Certains de ceux qui nous écoutent, pour peu qu'ils habitent les environs de Versailles et tout spécialement la tranquille commune du Chesnay, ont peut-être connu le temps où la grande demeure 1900, qui abrite aujourd'hui la chambre d'agriculture et qu'on appelle le château de Bellevue, appartenait encore à une personnalité célèbre. Cette illustre habitante du Chesnay avait acquis le domaine au lendemain de la Première Guerre mondiale et dans le voisinage, on l'appelait la reine. Pourquoi la reine? Parce que, en effet, elle avait été reine de Portugal. Amélie avait été la femme et la veuve du roi Carlos, assassiné à Lisbonne, place du Commerce. On revivra ce moment dramatique dans un instant. Et puis, elle avait aussi été la mère du roi Manuel II, destitué brutalement et contraint à l'exil. Cette mystérieuse reine exilée, qui avait tenu à rester en France durant toute la période de l'occupation, cette vieille dame du Chesnay en avait connu des malheurs. Elle les avait même accumulés. À sa mort, en octobre 1951, elle devait être veillée par le comte et la comtesse de Paris, qui eux-mêmes venaient tout juste de rentrer d'exil. À l'époque, elle était leur tante, il ne faut pas l'oublier, parce que cette reine de Portugal était née princesse française, fille de Philippe d'Orléans, qui lui-même était le petit-fils aîné du roi Louis-Philippe. Ce qui veut dire que celle qu'on appelle la reine Amélie, la petite Amélie, était l'arrière-petite-fille du roi citoyen. Elle était née à l'automne le 28 septembre 1865, donc elle était née en exil, puisqu'à l'époque la famille d'Orléans, comme la branche aînée des Bourbons du reste, vivait en exil, depuis la révolution de 1848, qui avait renversé Louis-Philippe. Donc on vivait en Angleterre, elle naît elle-même en Angleterre. Il faut imaginer l'éducation très stricte qu'elle reçoit, avec une mère extrêmement autoritaire, un père peut-être un petit peu plus doux, plus modéré, mais qui finalement était fort peu présent dans l'éducation des enfants. Donc une éducation malheureuse. Et Stéphane, dans son récit, dans cette évocation romancée de la vie de la reine Amélie, nous dit, il revient plusieurs fois sur cette phrase, « Je n'ai pas aimé mon enfance, je n'ai pas aimé mon enfance ». C'est vrai que c'est une enfance dure. Et même quand, après la chute du Second Empire, la famille est autorisée à remettre les pieds sur le continent, quand je dis qu'elle est autorisée, elle y est même invitée, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité de la toute première chambre élue en 1871 était clairement monarchiste et qu'on se demandait si après tout ce ne serait pas le moment de remettre la famille sur le trône. Même à ce moment-là, quand la petite princesse s'installe avec sa famille au château 2, qui est le château familial, ça n'est pas la joie, il faut bien le dire. La petite princesse a 6 ans à ce moment-là et c'est elle qui donc plus tard va épouser le roi de Portugal. Dans quelles circonstances? J'y viens dans un instant. En fait, elle avait rencontré le Don Carlos. Vous savez qu'au Portugal, c'est ainsi qu'on présente les Altesses Royales. Hein. Don Carlos, duc de Bragance, qui donc était l'héritier du royaume. Elle l'avait rencontré quand elle avait 21 ans. On est en 1886. Ils se sont rencontrés au cours d'une chasse à Chantilly. Il faut imaginer ce que ça pouvait être, que ces grandes chasses, ces grands rendez-vous du Gotha au tout début de ce qu'on va bientôt appeler la Belle Époque. Le mariage est clairement arrangé entre les deux familles, mais
il faut reconnaître qu'il y a une attirance, qui est une attirance réciproque. Lui est très bel homme, avec une allure tout à fait avenante, il faut l'imaginer blond, la moustache bien peignée. Alors il deviendra de plus en plus corpulent, pour ne pas dire obèse, avec le temps, mais à l'époque, il est encore tout à fait bien, si je puis dire. Quant à elle... On peut pas dire que ce soit une beauté, la jeune Amélie. D'abord, elle mesure 1m82, ce qui à l'époque en fait quasiment une géante. On l'appelle la grande dans la famille. Mais elle a du cran, elle a un port de tête absolument royal, elle a un regard plus qu'attachant, donc elle est assez désirable probablement. Elle est la fille du prétendant au trône de France à l'époque. Sa famille, ne l'oublions pas, la maison d'Orléans, est une famille immensément riche et dont le prestige à l'échelle mondiale est encore très très grand. Ce qui était très étonnant, c'est qu'elle va épouser l'héritier d'une famille régnante, mais si mésalliance il devait y avoir, elle serait plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que la maison d'Orléans, dont elle est la représentante en l'occurrence, est extrêmement prestigieuse. Hein. Donc il n'y a pas du tout de problème pour la cour de Portugal à marier... à marier le prince héritier avec cette jeune fille. Les fiançailles ont lieu le 15 mai 86 dans la résidence parisienne du comte de Paris. Alors, il va y avoir des fêtes extraordinaires. Hein. 4000 invités, et quand je dis invités, vous imaginez, on est en 1886, tout le monde arrive avec son équipage. C'est-à-dire qu'on vient pas avec un petit fiacre de louage, on arrive avec la grande berline de famille, les armes sur la portière, les 6 chevaux pour tirer. Donc, vous imaginez l'encombrement, l'embouteillage, si j'ose cet anachronisme, aux abords du lieu de fête et d'une façon générale dans tous les quartiers chics de Paris. On dit que le président Grévy, qui devait se rendre à une inauguration, ne peut même pas se rendre à son obligation officielle, tellement les rues sont totalement encombrées par la fête, etc. Tout le monde imaginait toute cette haute société parisienne qui a sorti les rivières de diamants, etc. C'est un étalage, c'est une débauche de luxe royaliste, il faut bien le dire, puisque tout le monde fait assaut de royalisme à l'occasion des fêtes précédant le mariage. Tout ça va faire très très mauvais genre dans une république qui est en train de s'installer depuis 2-3 ans. Hein. On est au milieu des années 1880, quand la Troisième République est en train de s'installer, vraiment de se visser, si je puis dire, à la France. Ça va tellement mal se passer que dans la foulée, le 11 juin, l'Assemblée, on dit à l'époque la Chambre des députés, vote une loi qui va de nouveau envoyer le comte de Paris et son fils aîné en exil. Et pendant toute sa vie, la princesse Amélie, qui va bientôt devenir la reine de Portugal, portera un peu comme un remords cette histoire. Elle se dit que c'est à cause d'elle que sa famille est repartie pour l'exil.
Sur Europe 1, un extrait de la méditation de Thaïs de Jules Massenet. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Amélie, future reine du Portugal.
Ah oui, pardon, c'est à moi. J'attendais gentiment la publicité, vous l'aurez remarqué.
Oui, effectivement,
j'étais
on écoutait la musique.
D'un calme, c'est la méditation de Thaïs qui me berçait d'une certaine manière. Alors il faut imaginer ce couple qui, au départ, a toutes les joies et tous les bonheurs. On est évidemment dans ce que peut être la cour de Portugal à l'époque. Vous savez que le Portugal n'est plus du tout dans son âge d'or, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a perdu le Brésil, c'est un pays qui est en train de devenir pauvre et même assez marginalisé en Europe, il faut bien le dire. Mais la cour, elle, continue à vivre sur sur son vieux train, si je puis dire, ce qui crée forcément un décalage, qui d'ailleurs va peu à peu poser problème dans l'opinion, il faut pas se leurrer. Mais en même temps, qui n'a visité les grandes demeures de cette maison royale du Portugal ne peut se faire une idée de ce que peut être l'extraordinaire douceur de la vie de ces grandes familles dans les années de la Belle Époque. Vous savez, ce sont des jardins luxuriants, ce sont des salons magnifiques dans lesquels on maintient toujours un peu d'ombre et de fraîcheur. Je dis ça pour nos auditeurs qui sont en train de souffler à 40 degrés. Il y a dans ce Portugal des années 1890 quelque chose de tout simplement merveilleux. Alors on est au château de la Pena, vous savez, qui est une sorte de Neuschwanstein à la portugaise, si je puis dire, un château de conte de fées, littéralement, entouré d'une forêt de 200 hectares sur une sorte d'éperon rocheux où courent les sources vives. C'est tout simplement magnifique. Où on va? Alors, beaucoup plus près de la frontière espagnole, à Villa Viçosa, demeure absolument splendide, dont les paysages sont tellement extraordinaires qu'ils vont inciter la reine Amélie, puisqu'elle devient reine, hein, bien sûr, qui vont l'inciter à peindre. Et c'est un goût, la peinture, qu'elle partage avec son mari, avec le roi Carlos Ier, qui lui-même est un homme, je vous l'ai dit, très sportif, hein. Il faut savoir qu'il multiplie toutes il se donne beaucoup, il s'adonne au tennis, il va créer les premiers clubs de football dans le pays, en fait, etc. Il est souvent à la chasse, et là encore, c'est un terrain de rencontre pour les deux, puisque la reine participe à la chasse. Alors, ils vont avoir des enfants, un premier garçon naît, il y aura un deuxième, et en 1887, puisque je vous parle du château de Villa Viçosa, là, il y a un événement terrible, puisqu'un incendie se déclare à l'étage. La reine, à ce moment-là, est enceinte, elle entend des cris qui proviennent de la chambre de son fils, Louis-Philippe, qui se situe donc à l'étage. Elle accourt, bien entendu. Il faut imaginer les femmes de chambre dans son sillage. On fracasse la porte plus qu'on ne l'ouvre. Et là, la reine se jette littéralement sur le berceau de son jeune fils, déjà entouré de flammes. Elle va le sauver, mais l'émotion qu'elle a ressentie est si vive que ça va lui faire perdre l'enfant qu'elle est en train de porter, c'est-à-dire celle qui devait être sa fille et qui va être mort-née, la pauvre Marie-Anne. En sauvant un enfant, on peut dire que Amélie a perdu l'autre. C'est un drame absolument terrible. Toutes les mères peuvent exactement comprendre ce dont nous sommes en train de parler là. Un drame tellement effroyable que on peut dire que la vie d'Amélie, à partir de ce moment-là, est d'emblée teintée d'une sorte d'ombre. Et ça, ça n'est que le premier d'une longue série de deuils et de drames. La reine va vraiment vivre des choses terribles. Alors, il faut dire qu'elle est très investie dans la politique sociale de son pays d'accueil. Elle va fonder des institutions pour les enfants pauvres, à Lisbonne notamment, mais pas seulement, pour les tuberculeux, pour les naufragés, pour les filles mères, etc. Elle défend ses projets devant les instances locales, notamment devant le Conseil d'État. Elle fonde l'Institut bactériologique, en dépit de la très grande réticence de la communauté scientifique et de la bureaucratie locale. Elle ne craint pas de se confronter au malheur, à la pauvreté dont je vous parlais, qui sont en train de se répandre dans le Portugal de l'époque. Et c'est d'autant plus méritoire, si je puis dire, que sur un plan privé, les choses ne vont pas bien. Elles vont même, disons-le, de plus en plus mal. Amélie a très vite compris que son mari était ce qu'on appelle un coureur de jupons. Alors d'accord, c'est un bon vivant, donc Carlos, hein, adepte de la bonne chère. On le voit constamment collectionner les vieux alcools, faire venir des cigares de très loin, bien entendu. Bon, mais surtout, il est ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, victime d'une addiction au sexe. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'une activité frénétique. On le voit disparaître souvent à la campagne, on ne sait pas trop où il est. Et puis alors, quand il vient à Paris, parce qu'il y fait de fréquents séjours, il est un adepte et un habitué de certains lieux de débauche bien connus. Je pense à l'un des plus célèbres lupanards de Paris, qui s'appelait le Chabanais, tout près du palais royal. Alors on sait que le roi de Portugal est habitué de ces endroits. Il a certaines maîtresses qui sont célèbres, d'ailleurs je pense à la comédienne Réjeanne par exemple. Et vous imaginez que toutes ces liaisons sont connues, qu'elles sont une véritable humiliation pour la reine Amélie, qui doit subir, silencieuse, digne. Alors dans un premier temps, elle a fait chambre à part avec son mari, puis peu à peu, si j'ose dire, ils vont faire palais à part. Et Carlos ira jusqu'à installer à Lisbonne une Américaine qu'il a d'ailleurs rencontrée à Paris, dont il aura une fille, et il ne se cache même pas pour rendre visite à sa deuxième famille, d'une certaine manière. Imaginez comme ça doit être dur à vivre, ça, bien entendu. Et puis, l'atmosphère s'alourdit avec le temps, il y a une crise financière qui va toucher le pays, qui va accentuer des disparités économiques déjà assez choquantes. Tout ça alimente le courant antimonarchiste, bien entendu, et notamment le socialisme qui est en train de devenir très très présent dans le Portugal de l'époque. Alors il faut essayer de contrecarrer cette opposition, qui est une opposition de plus en plus républicaine. Il faut savoir qu'il y a toute une partie de la bourgeoisie portugaise qui maintenant défend l'idée de république. Et le roi va nommer Jean Franco à la présidence du Conseil, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. Lui est pour un renforcement de la monarchie, mais alors un renforcement peut-être un peu brutal. On est en présence d'un homme qui manque complètement de diplomatie, de compréhension de la situation. Il va pousser à l'affrontement, il va jusqu'à dissoudre le Parlement, vous imaginez? Et la reine Amélie, elle, déplore tout cela. N'oubliez pas qu'elle est l'arrière-petite-fille de Louis-Philippe, qu'elle est l'héritière d'un certain courant libéral, d'une idée très constitutionnelle et très apaisée de la monarchie, et elle voit autour d'elle dégénérer un régime qui, somme toute, ne lui apporte que du malheur.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La reine Amélie est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous racontez le destin de la dernière reine du Portugal.
Oui, il y a quelques mois seulement, Ombline, j'étais sur cette place du commerce, le Terreiro do Paço, où tout s'est passé à Lisbonne. Quand je dis tout, cet épouvantable drame qui va définitivement qui va briser le destin de notre reine Amélie. On est le 1er février 1908. Il faut imaginer cette immense place, elle est gigantesque. Alors aujourd'hui, on a fait des petits baraquements dessus qui cassent un peu la perspective, mais il faut imaginer une immense colonnade. Il y a quelque chose de très monumental, de grandiose dans ce Portugal, dont je me permets de vous rappeler, dans ce Lisbonne, qui a été la capitale d'un gigantesque empire. Alors évidemment, l'empire, petit à petit, il est parti. Il ne reste plus que la capitale et les manteaux trop grands pour habiller les institutions du nouveau Portugal. Mais en attendant, on est sur cette esplanade gigantesque qui donne directement sur le Tage, sur la mer de Paille. Vous avez quelques marches qui descendent, et puis un embarcadère, et cet embarcadère est bordé, il est encadré par deux grandes colonnes, c'est un peu les colonnes d'Hercule du Portugal, si vous voulez, elles-mêmes sommées de sphères de pierre. Et il faut imaginer, à cet endroit même, le bateau qui ramène le roi, la reine, la famille royale et leurs enfants, d'une fête qui a eu lieu à Vila Viçosa. Je laisse ici la parole à Stéphane Bern dans son ouvrage « Moi, Amélie, dernière reine de Portugal ». Une jeune fille m'a donné un bouquet de fleurs, est censé dire la reine. Et après les habituels saluts et compliments, nous sommes montés en compagnie de nos deux fils dans le landau découvert qui devait nous conduire aux Necessidades. Palais des Nécessités, c'était le palais où désormais résidait la famille lorsqu'elle était à Lisbonne. Ce sont les derniers instants de bonheur. Nous passons devant le ministère de la Marine, répondant aux vivats de la foule, lumière du soir, parfum des violettes et des camélias qui montent du bouquet et sourire de mon époux et de mes fils qui répondent aux lisboètes. La voiture tourne vers la rue de l'Arsenal, elle aussi populeuse. Je regarde sans la voir la façade de l'hôtel de ville juste avant d'y arriver. Une détonation sèche. Elle vient de l'arrière. Puis un autre coup de feu qui claque à côté de moi. Le roi immobile, la tête inclinée et ses longets de sang qui sortent de son cou. Je suis debout dans le landau. Je vois l'arme et l'homme, sa longue cape. Je crie. Je veux qu'il recule. On m'a dit que j'agitais mon bouquet comme un sabre. Pas de peur, pas de courage. Mes fils qui sont derrière moi, je veux les protéger. Il y a des coups de feu tout près de moi et d'autres sont tirés depuis les arcades du ministère de l'Intérieur. Un homme épaule sa carabine et me vise, comme à la chasse. Je voudrais que mon corps soit encore plus grand, encore plus large, un bouclier pour les petits. Le chasseur s'enfuit, tournoie et s'écroule, lâchant son fusil tout près. Un homme vêtu de longs manteaux est tombé, ordre hurlé, fumée âcre, et la voiture qui s'emballe enfin. Je sais que le roi est mort, mais je crois que les enfants sont sauvés. Et oui, mais ça n'est pas si simple. En réalité, l'infant qui a une blessure au bras a bel et bien été sauvé, mais son frère aîné, qui est l'héritier du trône, lui a eu la moitié du visage arraché et il va mourir dans les bras de sa mère quelques minutes plus tard. Il n'avait que 21 ans, ce prince héritier. Et voilà donc le roi et son héritier qui, dans un seul bain de sang d'une après-midi lisboète qui s'annonçait belle, vont disparaître. Et voilà la reine Amélie qui doit tenir le royaume, si je puis dire, qui doit seule faire face. Quand je dis seule, elle a un fils, donc Manuel, qui a 18 ans, il a été blessé, hein, Manuel, mais enfin, il va devenir le roi sous le nom de Manuel II. Aux yeux de la reine Amélie, si l'on cherche des responsables, et vous vous imaginez bien que cette femme ne peut pas faire autrement que chercher les responsabilités, bien sûr, ces responsables, elle les trouve essentiellement dans l'entourage de son mari. Et elle va essayer de faire le ménage, si vous voulez, notamment d'évacuer, d'écarter ce fameux Gianfranco qui a joué ce rôle tellement, tellement dur. Elle est là, aux côtés de Manuel, elle l'assiste pendant tout le début de son règne. On peut dire que ce n'est pas lui véritablement, c'est l'avènement d'une mère en même temps que celui de son fils, hein, qui a lieu en cet automne 1908. Alors, c'est un roi qui est bon, qui est cultivé, qui a un très grand sens du devoir, Manuel. Mais vous savez, il fait partie de ces espèces de rejetons des grandes familles royales de cette époque où tout est tellement compassé, lisse, polissé, qu'on finit par n'avoir même plus la présence du caractère, en quelque sorte. Et Manuel manque incontestablement du caractère qui lui permettrait de s'imposer dans des circonstances au demeurant très difficiles. Il est trop timide, il va essayer de rassembler son peuple autour des valeurs libérales de la monarchie, tout en essayant d'intégrer le plus possible les républicains qui, à Lisbonne en 1908, sont majoritaires. C'est en fait ce qui est en train de se passer, c'est une gentille transition vers la République. Je dis gentille et inexorable. Il y a un autre attentat d'ailleurs, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui vise directement le palais des nécessités. Et le roi va sortir indemne de ce nouvel attentat, mais il comprend bien que cette fois, c'en est fini de la monarchie, alors qu'il tente de rejoindre Porto avec sa mère pour essayer de se retrouver dans le dernier carré monarchiste. La République est proclamée derrière lui, si je puis dire, dans son dos à Lisbonne, le 5 octobre 1910. Et voilà le roi Manuel II, après un très très court règne, 18 mois, et voilà surtout sa mère, qui vont s'embarquer à bord du yacht royal pour un voyage sans retour. Alors c'est un nouvel exil pour cette princesse née en Angleterre. Eh bien c'est un retour au point de départ, si je puis dire, un retour à l'Angleterre qu'il avait vu naître 45 ans plus tôt seulement. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle va décider de porter secours aux soldats français. Elle se rend chez sa mère. Sa mère, c'est la vieille comtesse de Paris qui est au château de Randan dans le Puy-de-Dôme où on a organisé une ambulance militaire. Elle va soigner là des blessés. Et à la mort de sa mère, elle s'installera donc dans cette nouvelle demeure du Chesnay. On est tout près de Versailles, bien entendu. Vous vous dites, ça y est, c'est fini, ça va être maintenant la fin tranquille d'une reine exilée qui doit ressasser ses malheurs. Mais non, parce que les malheurs sont là et qui continuent de se rappeler à elle, puisqu'en 1932, son fils qui vivait lui en Angleterre toujours va mourir d'un œdème de la gorge. Et c'est au Chesnay donc que la reine Amélie finira ses jours. Elle les finira tard, si l'on peut dire, puisque, comme je vous le disais pour commencer cette émission, il y a sans doute parmi nos auditeurs des gens qui l'ont croisée, qui l'ont sans doute connue ou saluée quand ils étaient jeunes ou voire petits. Cette reine Amélie ne mourra qu'en 1951 au Chesnay. Elle n'a jamais perdu cette espèce de force d'âme qui la rend aujourd'hui encore digne d'admiration et qui a visiblement forcé l'admiration de Stéphane. On va lui poser la question dans un instant, bien entendu. Elle avait une devise, vous savez, une devise qu'elle a fait graver au fronton de cette demeure qui aujourd'hui accueille la chambre d'agriculture des Yvelines. Cette devise, elle est toute simple. Elle tient en un mot qui nous paraît peut-être dérisoire, mais que vous me permettrez de trouver tout simplement très joli et même assez beau. C'est le mot espérance. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Franck Ferrand.
Ça m'amuse beaucoup. On va se vouvoyer. Oui. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça à la radio.
C'est la règle de la radio.
Ça me fait bizarre de vous avoir dans ce studio pour parler de ce grand personnage auquel vous avez consacré un livre, Moi, Amélie, dernière reine de Portugal, réédité chez De Noël.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Europe 1, un extrait de La Marche pour la fête du couronnement de Tchaïkovski, une musique à retrouver dans le coffret de Stéphane Bern, les musiques royales. Et le journaliste, écrivain et grand connaisseur des têtes couronnées, Stéphane Bern, et votre invité, Franck Ferrand. Vous êtes l'auteur de Moi, Amélie, dernière reine du Portugal chez De Noël, réédité en mai dernier.
Et oui, c'était votre premier roman d'ailleurs, Stéphane, hein, ce Moi, Amélie, qui avait demandé, moi j'ai connu cette période, je me rappelle, ça vous avait demandé des mois et des mois de travail, de recherche dans les archives privées, bien souvent, de la maison d'Orléans, de la famille de Bragance, en fait, etc. Vous alliez là-bas.
J'avais demandé l'autorisation à feu le comte de Paris, qui nous a quittés en 1999, l'autorisation de pouvoir aller dans les archives privées, aux archives nationales, et de fouiller dans les cartons. Et je vous assure que personne n'avait, avant moi, consulté les archives privées de la reine Amélie. Et donc, quand vous ouvrez les cartons, déjà, cette poussière de l'histoire qui vous arrive à plein nez, tout d'un coup, vous ouvrez les carnets. Elle tenait un journal. Donc moi, au fond, quand j'ai voulu écrire les mémoires apocryphes de la reine Amélie, je me suis basé essentiellement sur ce qu'elle-même écrivait dans son journal intime. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire officielle. Elle racontait sa vision, la manière dont elle voyait les choses. Et parfois, c'était un style tout à fait télégraphique. Mais en même temps, ça nous donne tout à fait une bonne impression de qui était son caractère. Il y a un mot en portugais, c'est varonil. Elle avait ses vertus masculines en quelque sorte. Elle était un
elle
homme.
Elle avait un côté garçon manqué. Hein.
Exactement. Elle était un homme dans un corps de femme, si on peut parler de corps de femme, parce qu'elle était tout
un
à
peu,
fait
oui.
Masse.
Oui, oui.
Elle faisait 1m82. elle avait une assurance. Elle était un visage très doux. Étrangement, mais un corps qui est une armoire à glace. Enfin, elle était très impressionnante, très imposante. Elle avait beaucoup de majesté. Elle avait cette façon de qu'ont les royaux, d'une manière générale, de vous donner le sentiment que vous étiez très important. Mais elle était plutôt libérale, élevée, comme vous l'avez dit, par son père, le comte de Paris. Elle n'aimait pas beaucoup sa mère.
Rien à voir avec le comte de Paris dont vous nous parlez,
oui,
bien sûr, son grand.
Celui qu'on appelait dans la famille royale,
grand-père.
Le comte de Paris grand-père, voilà. Pour marquer une différence. Et la comtesse de Paris grand-mère était une femme très laide, il faut bien le dire, mais et très rigide. Elle était la nièce, en quelque sorte, de la reine Isabelle II d'Espagne. Sa sœur, vous savez, c'était le fameux marchandage des mariages.
Oui, oui.
Quand un fils de Louis-Philippe, changement pensier,
voilà,
devait épouser la reine Isabelle, l'Angleterre s'en était émue et donc avait épousé sa sœur Maria Luisa Fernanda, et d'où était née Isabelle, qui avait épousé son cousin issu de Germain. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Et donc, c'était la mère de la reine Amélie. Elle était très dure. Elle était tellement désolée d'avoir donné une fille.
Eh oui.
C'est-à-dire que, vous savez, elle, comme beaucoup dans ces familles royales, ils voulaient à l'époque que ce soit un garçon qui naisse le premier, que ce soit un fils aîné qui perpétue la race, en quelque sorte. Et là, c'était une fille, donc elle était très déçue. Mais la reine Amélie avait une vertu incroyable, un aplomb, un courage physique et mental. Bref, élevée à l'ancienne.
Oui, à l'ancienne, avec ce que ça peut comporter quand même de classe, si je puis
oui,
dire. Hein.
Mais de rigidité aussi. Par exemple, elle, tout au long de sa vie, et vous avez raconté son exil, par exemple, quand elle se retrouve en Angleterre, au moment de la République, au Portugal, on change de drapeau. Avant, c'était les couleurs bleu et blanc. Alors, le drapeau, d'ailleurs, c'est la tenue qu'elle a portée le jour où elle est arrivée au Portugal, mais elle a marché du mauvais pied, donc on a dit qu'elle portait malheur. Mais enfin, ce jour-là, elle avait une robe bleu et blanc. Vous savez, les Portugais aiment beaucoup ce genre d'histoire.
De superstition.
De superstition. Et chaque fois qu'elle allait quelque part, il y avait la reine de Portugal qui arrivait. Donc, la communauté en Angleterre, on essayait de mettre le drapeau. Mais on se trompait, on mettait le nouveau drapeau, le drapeau vert et rouge de l'actuel Portugal. Et la reine, elle mettait dans son journal la mauvaise bandera. Bandera, c'est le drapeau.
Le
faux drapeau, le mauvais. Donc elle s'attachait à ce genre de choses. Et surtout, ce qui est terrible quand vous ouvrez son journal, c'est tous ses malheurs. Elle se prenait tout dans la figure. Elle qui était la bonté même, qui faisait le bien autour d'elle. Et elle se posait des questions. Elle avait une belle-mère qui était atroce, il faut bien le dire. Très drôle. Complètement extravagante, Maria Pia de Savoie, qui ne faisait absolument pas la charité et qui achetait seulement des bijoux avec les caisses de l'État. Et sa belle-mère était plus populaire qu'elle. Elle faisait en sorte de dépenser tout, sur sa cassette personnelle, d'aider les pauvres, d'aider, de faire de la charité, de la bienfaisance en permanence. Et elle était moins populaire que ne l'était sa belle-mère, qui, elle, dépensait l'argent pour acheter des, pour ce faste portugais dont
ça,
vous
c'est
parliez.
C'est l'injustice.
C'est
de
l'injustice.
L'image,
c'était
en fait,
c'était terrible. Et elle le vivait comme une profonde injustice parce que, mais elle avait une foi chevillée à l'âme et tout ça, c'était aussi, elle pensait que c'était son chemin de croix et qu'elle devait aller jusqu'au bout du chemin de croix. Et ça a été très loin puisqu'elle a perdu tous ses enfants et son mari.
Alors, ce qu'il faut dire pour en finir avec cette histoire et cette jeunesse, c'est qu'elle est quand même une princesse exilée dans une famille. Alors, il rentre, c'est vrai, quand elle a 6 ans, on rentre en France, mais une princesse qui est née en exil et dans une famille qui n'est plus régnante. Donc, grande et prestigieuse famille, mais quand même un problème, là, une frustration, probablement.
Sans doute une frustration de la part de son père qui, tous les matins, réunissait un conseil de la couronne.
Une sorte de cabinet fantôme.
Ce que vous avez souligné à juste titre, c'est que toutes ces années, jusqu'à la mort du prétendant, qui était le comte de Chambord, le prétendant de la branche légitime, la branche des Bourbons.
L'autre branche,
le petit-fils de Charles X. Eh bien, le comte de Paris espérait toujours une réconciliation familiale et qui prendrait la suite, évidemment. Et donc, la France hésite entre République et monarchie, bien jusqu'en sûr. 1883.
D'où la décision de 86 de renvoyer de nouveau la famille hors des frontières, parce qu'on a peur.
On a peur, parce que ce mariage, comme vous l'avez dit, a créé un embouteillage de carrosses. Et surtout, ça se passait à l'hôtel Matignon, puisque c'est le lieu même, c'est l'actuelle résidence
palais
du Premier
Galliera,
ministre,
le palais Galliera,
mais c'est la raison de la duchesse de Galliera. Donc, et c'est dans ce palais qu'a lieu les fiançailles de Don Carlos, duc de Bragance, avec la princesse Amélie. On expose les cadeaux et la République sent un danger. Ils se disent, ah ben vraiment, donc la République est en danger, on vote en urgence la loi d'exil, et elle le prend comme étant sa responsabilité, sa faute à elle. Et donc toute sa vie, elle endossera comme ça toutes les erreurs. C'est en cela que le destin de la reine Amélie est très touchant. C'est que vous dites, chaque fois que vous arrive des malheurs dans la vie, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait au sort, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et chaque fois, elle se relève, elle se dit, oui, il y a l'espérance, il y a quelque chose de plus fort, elle trouve des ressources dans son caractère, et c'est en cela que le sort et le destin de cette malheureuse reine est un destin humain qui touche.
Elle était religieuse?
Très. Alors, les religieux, c'est-à-dire les moines, les autorités religieuses portugaises lui reprochaient de ne pas être assez dévote. Mais pour les autres, pour les républicains et pour les socialistes, elle était trop religieuse. Elle écoutait la messe tous les matins. Mais en même temps, elle avait une foi. Elle était croyante, mais elle ne voulait pas qu'on l'ennuie avec toutes les histoires de religion. Et donc elle était entre les deux, encore une fois. Et on lui reprochait de faire de la charité, mais surtout, elle y allait. Elle allait dans les dispensaires, elle allait voir les tuberculeux. Elle prenait des risques avec elle-même. Et les dames de la cour détestaient cela et commençaient à calomnier la reine et à dire du mal d'elle dans son dos.
Et on lui annonçait aussi toutes les turpitudes de son mari. Et on voit très bien dans votre livre à quel point ces grandes dames, sous couvert de réprobation et tout en ayant l'air de, évidemment, de plaindre la pauvre reine, se font un malin plaisir de remuer le couteau dans la plaie.
Vous avez une bonne amie qui vient vous parler des infidélités de votre mari.
N'est-ce pas? Alors, on va venir au Portugal même, raconter quand même l'arrachement, le dépaysement qu'a pu être pour la reine Amélie, cette installation au Portugal, où vivait est-elle ? À quoi ressemblaient ces palais, etc. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La reine Amélie, reine de Portugal, est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le journaliste, écrivain et grand connaisseur des têtes couronnées, Stéphane Bern, auteur de « Moi, Amélie, dernière reine de Portugal », réédité chez De Noël.
Oui, on dit reine de Portugal d'ailleurs, Stéphane.
On dit reine de Danemark.
Parce que c'est le royaume de Danemark, le royaume de Portugal. Ça vient de là, en fait. C'est une petite particularité. On ne soupçonne pas ce que les yeux d'une reine peuvent contenir de larmes et quels abîmes de douleur il y a dans leur cœur, avait dit Bossuet, et c'est l'exergue de ce roman qui était votre premier roman, pour lequel vous aviez appris la langue portugaise, du reste.
J'ai appris à parler portugais, ne serait-ce que pour déchiffrer, d'ailleurs, tous les dossiers de la reine, du roi Don Carlos. J'ai beaucoup travaillé au Portugal sur les archives. Les Bragance m'ont ouvert leurs archives.
C'est la famille royale
la famille royale du Portugal. Vous parliez de ces palais qui sont incroyables quand elle arrive Portugal. On est.
Alors, où faut-il aller pour retrouver l'esprit de la reine Amélie? Je parlais tout à l'heure de la Peña.
C'est sans doute le château, ce château un peu romantique. C'est construit au 19e par un Saxe-Coubourg qui était l'époux de la reine Marie II du Portugal. Vous savez, les Saxe-Cobourg, on les appelait les étalons du côté, ils se mariaient partout. Et puis, comme ça, ça permettait à leur famille, qui venait de perdre leur petit duché, eh bien, d'exister. Eh bien, c'est comme ça qu'on en fait épouser un à la reine Victoria, un autre à la reine de Portugal. Et puis, comme ça, ils essaiment sur les cours. Et donc, il vient d'Allemagne et il se dit, je vais faire un château romantique. Et il y a ce château d'Apena. Les pièces sont minuscules.
C'est un château un peu à la façon des châteaux de Louis II de Bavière.
Exactement.
Hein, c'est dans cet esprit, une sorte de château fantasque.
Avec un style manuélin en plus.
Oui, voilà. C'est-à-dire à la portugaise.
À la portugaise. Donc, revisité. Il a été restauré ces derniers mois. C'est absolument joli. C'est ravissant. Il y a toutes sortes de couleurs. Il y a du rouille, il y a du orange, il y a du jaune. Il y a toutes les couleurs sur les murs. C'est absolument magnifique. Et vous découvrez, c'est un ancien monastère. Donc quand vous entrez, vous avez les chambres, les pièces sont comme des petites cellules de moines.
Oui, oui.
Et donc c'est assez ridicule parce que tout d'un coup vous
des
retrouvez
cours, des comme
toutes
ça,
petites
avec des
courettes et vous êtes dans la chambre de la reine. Mais personne n'accepterait une chambre comme ça aujourd'hui.
C'est très modeste, oui.
Plus que modeste. Oui. Et alors ce qui est touchant, c'est que tout est français. C'est-à-dire qu'elle avait dit qu'elle devenait reine de Portugal, elle avait accepté, mais elle dit mon cœur et mon âme, je resterai française. Et tout est français. Et c'est-à-dire que tout est resté dans l'état où c'était en 1910, lorsqu'elle est partie sur le chemin de l'exil, à retrouver son fils. Ils sont partis en exil. Mais à ce moment-là, eh bien, il y a ces couverts, il y a ces verres. Et tout est de l'argenterie française. Franc-Montmeurice avait fait le fameux sur toute table. Et donc, il est là. On a toute la vaisselle. On a les arts de la table qui viennent de France. Et tout est là, en l'état. Sa chambre est dans l'état où elle était. Donc on retrouve là l'âme de la reine Amélie quand on est au château d'Apena, au-dessus de Sintra.
Mmh. On peut aller donc à Villa Viçosa.
On peut aller à Villa Viçosa, qui était... Alors c'est à la frontière espagnole, c'est dans l'Alentejo. Et d'ailleurs, c'est là, vous avez si bien montré, il y a ces forêts de chêne-liège. Elle les peignait merveilleusement bien. Elle avait cette passion en commun avec son mari et ils pratiquaient ça ensemble dans l'Alentejo. C'était la chasse d'un côté. Elle était un très bon fusil. Et de l'autre côté... Eh bien, il y avait la peinture, l'aquarelle. Elle avait appris très tôt à peindre. Et c'était une échappatoire pour elle. Elle a d'ailleurs, dans son exil, bien après, elle a édité tous ses dessins dans deux magnifiques ouvrages ont été vendus au profit des œuvres caritatives de la reine Amélie. Et donc... Toute son action a continué longtemps après à faire vivre les dispensaires au Portugal. Donc pour elle, c'était une vocation d'être reine, c'était un métier.
Alors il y avait toutes ces villégiatures où l'on passait quand même énormément de temps. Hein. C'était quand même, on peut dire que la vie de cour était relativement douce. Mais il y a aussi les obligations lisboètes, hein, bien sûr, il faut être là.
Les principales obligations, eux vivaient au palais des Necessitades. Le palais des Necessitades, aujourd'hui c'est le ministère des Affaires étrangères. Il y a quelques jolis salons, mais c'était plutôt fonctionnel. Disons. Le grand palais magnifique que personne ne visite, qu'on ne visite plus, c'est dommage parce que c'est le seul exemple en Europe
extraordinaire endroit.
D'un style Napoléon III. C'est-à-dire qu'en fait, le roi Don Luis, qui était le père de Don Carlos, le duc de Bragance, et sa mère, Maria Pia de Savoie, dont je vous ai parlé, et qui était folle à la fin de sa vie, puisqu'elle arrosait les fleurs qui étaient dessinées sur ses tapis.
Les tapis, oui, le pauvre.
Eh bien, la seule chose, elle avait des raisons d'être folle, elle a perdu son fils, son petit-fils, je comprends que son esprit est déraillé, mais elle a acheté les meubles à l'exposition universelle 1855, 1867. Elle venait à Paris. Elle achetait tout le mobilier Second Empire. Donc vous avez le seul exemple.
Comme si on était
Europe,
aux Tuileries.
Comme si on était aux Tuileries, oui. Qui ont disparu.
Il faut,
vous
faut
savez,
donner le nom du palais.
Le palais d'Ajuda, qui veut dire aide en portugais, Ajuda. Et donc dans ce palais d'Ajuda, qui n'a jamais été vraiment fini, eh bien il y a des salons magnifiques. Et il y avait une fois par an ces grandes cérémonies. Il y a la salle du trône, il y a la salle de bal.
Et c'est dans gigantesque
la salle à manger qui
c'est
est toujours
plus grand que Buckingham.
Et d'ailleurs, le président de la République portugaise aujourd'hui utilise toujours les salons de la famille royale pour les grandes réceptions d'État. Et n'oublie jamais d'inviter le duc de Bragance, héritier des rois du Portugal, pour ses cérémonies. Mais c'est là qu'il y avait le 1er janvier, le beijão à Schmaunch, qui est le baiser des mains, puisque c'était la cérémonie d'allégeance. On la retrouve encore au Maroc, d'ailleurs, cette cérémonie, où pour le jour du 1er de l'an, on allait faire allégeance à la famille royale en baisant la main des souverains.
On ne peut pas parler du Portugal sans évoquer ce qu'on appelle la saudade, c'est-à-dire cette espèce de sentiment très particulier qui est un sentiment de nostalgie anticipée, en quelque sorte. On est en train de vivre dans le présent une nostalgie, en quelque sorte, avec une sorte de plainte comme ça, très poétique et très belle, mais en même temps très triste, On est à une époque, disons-le, pendant tout le règne de la reine Amélie, pendant le très court règne de son fils, une époque où tout est en train de se déliter et où le Portugal va mal.
Le Portugal va mal. Il y a une chose surtout qui est une humiliation. Et ça fait penser à peut-être à la Grèce d'aujourd'hui. Ce qui se passe au Portugal à l'époque, c'est l'ultimatum. Il faut avoir ça très présent à l'esprit. On a redessiné dans les conférences internationales la carte de l'Afrique. Et on a attribué au Portugal le Mozambique et l'Angola. Et le but des Portugais, d'Albuquerque notamment, c'est de réunir l'Angola et le Mozambique. Donc de faire cette bande Corda Rossa, parce que sur la carte qu'on a tous, la France était, je crois, en jaune et le Portugal était en rose, couleur rose.
La France était en mauve.
En mauve, pardon. et donc, il fallait réunir, évidemment, le Mozambique et l'Angola. Et là, les Anglais sont furieux parce qu'ils voient leur empire colonial en train d'être mangé par les Portugais. Ils viennent avec les navires de guerre dans le port de Lisbonne. Il bombarde, il menace, et c'est l'ultimatum, 1890. Et là, ça a été un mouvement à la fois politiquement, ça a été sur le plan littéraire, tous les grands écrivains. On a eu ce mouvement littéraire qu'on a appelé « Uj vencid, uj da vida », les vaincus de la vie, très beau nom. Et dont fait partie Essad Queiroz, qui était ambassadeur ensuite du Portugal à Paris, qui a écrit des carnets.
Merveille de livre.
Qui est vraiment le roman.
Les Mayas.
Les Mayas, c'est un peu le Flaubert portugais. Et donc, ils sont tous suicidés les uns après les autres. Ça a été une humiliation terrible. Et le Portugal vacille à ce moment-là. Il est en train de perdre son empire, d'être humilié politiquement sur la scène internationale. Et ça va mal. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez souligné, c'est que, évidemment, les républicains montent en flèche, mais dans le même temps, les monarchistes divisent entre eux, entre les progressistes et les régénérateurs. Et ils se battent. C'est-à-dire que
les régénérateurs, c'est les gens très, très hyper conservateurs.
Hyper conservateurs. Et donc, tous les mouvements à l'intérieur même des monarchistes se battent entre eux. Au lieu de s'unir autour du roi, et le roi et la reine voient au fond le plancher s'ouvrir devant sous leurs pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire, ils ont un rôle constitutionnel. Le roi n'a pas d'autre pouvoir que de dire aux gens arrêtez maintenant, travaillez ensemble.
On n'aurait pas pu l'empêcher, cet attentat de 1908 quand même. On ne crée pas, on ne va pas tuer le roi et le prince héritier sans que ça fasse un peu de bruit quand même.
C'est difficile, c'est une mauvaise époque, c'est l'époque des attentats anarchistes.
Il y en a partout, dans toute l'Europe.
Il y a Umberto Ier à Monza en Italie. Vous avez à Salonique le roi de Grèce, Constantin Ier.
Alexandre Ier du Gustavique, 30 ans plus tard.
Absolument. Vous avez donc tous ces rois sont en train de... C'est Georges Ier de Grèce qui a assassiné. C'est son fils Constantin qui lui succédera. C'est Georges Ier de Grèce qui a assassiné après 50 ans de règne. Et donc... C'est un dur métier pour les rois à cette époque. Les anarchistes sont partout. Et il y a en plus, l'armée est assez complice parce que l'armée était dominée par les positivistes. Donc les idées les plus progressistes ont imprégné l'armée. Et l'armée est de moins en moins fidèle au roi, alors que c'était son bastion quand même. Et l'armée va trahir petit à petit, les régiments se retournent les uns après les autres, à commencer par la marine, qui était le fleuron de l'armée portugaise.
Alors dans votre livre, on a l'impression, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en le relisant, que la fin de la République et la fin de la monarchie et le départ en exil sont presque plus durs à vivre et à supporter pour la reine Amélie que la propre mort de son mari et de son fils. C'est comme si c'était là l'arrachement définitif. Elle n'a même plus, vous lui faites parler en style quasi télégraphique, car elle n'a même plus la force à ce moment-là d'écrire des phrases entières.
Ce que j'ai lu sous sa plume, c'est que autant quand son mari est mort et son fils est né, elle avait les rênes entre les mains. C'est-à-dire qu'elle pouvait agir. Elle était proactive. Elle était la reine, régente de son fils, puis elle l'aide à gouverner. Elle peut faire quelque chose. Elle se dit « je vais sauver le royaume ». Mais en 1910, c'est fichu. Elle est au château d'Apena, à Sintra. Son fils est aux nécessités à l'intérieur même de Lisbonne. Et on bombarde le palais et il lâche parce qu'il ne veut pas tirer sur la foule. Évidemment, comme il dira plus tard, il n'y a que les républiques qui peuvent tirer sur la foule. Un roi ne peut pas le faire. Et donc, c'est ce que disait Manuel II. Et donc, lui lâche. La reine, elle n'a plus...
Faites bien de préciser.
Oui, c'est la reine rejoint son fils sur Aericeira où ils embarquent pour rejoindre le yacht royal. Et vous savez, c'est à ce moment-là que les Portugais, et la saudade portugaise est formidable, c'est au moment où la reine part en exil que les Portugais regrettent.
Ils commencent déjà à regretter.
Et c'est au moment où vous les quittez, où vous À aucun moment, il y a eu des cris hostiles. Jamais un mot contre la reine Amélie, jamais. Elle est regrettée, mais on la voit partir comme une fatalité, fatum, le destin.
Elle part d'abord pour l'Angleterre quelque temps, et puis elle vient se réinstaller dans ce qui est après tout son pays, qu'on le veuille ou non, même si elle est née elle-même en exil. Elle vient s'installer en France. Elle finira par prendre racine, si je puis dire, par faire souche tout près du château de Versailles, au Chesnay.
Un voyage, Franck, il faut le savoir, c'est une reine itinérante. Elle a ses habitudes à Lausanne.
On la voit dans divers cours.
On la voit dans les cours. Elle est invitée partout. Elle est à la cour d'Angleterre.
Avec de très belles photos, d'ailleurs.
Très belles photos à la cour d'Angleterre. Et surtout, elle est ruinée, enfin, elle n'a plus rien, ils n'ont rien emporté. Et donc elle vend des souvenirs de famille. Et qui les rachète? La Queen Mary,
toujours.
La reine Mary, qu'elle appelait May.
La grande collectionneur de la belle époque.
La grande collectionneur, celle qui était un peu pickpocket, il faut bien le dire, elle était kleptomane. Et donc ces dames d'honneur renvoyaient vite les objets qu'elles volaient dans les châteaux. Mais surtout, elle achetait à vil prix. C'est comme ça qu'elle a racheté les bijoux des Romanov et les perles de la reine Amélie. Donc elle voyage un peu partout en Europe. Elle est extraordinaire. Et puis on la voit au mariage du comte et la comtesse de Paris en 1931 à Palerme. On la voit au mariage évidemment de son fils quand il s'est marié avec une princesse de Sigmaringen, Hohenzollern, en Allemagne. Elle voyage. Et puis en 1945, elle fera le voyage sans doute le plus émouvant pour elle. Elle retournera au Portugal, invitée par Salazar.
Eh oui, parce que il faut savoir que pendant toute l'époque de l'occupation, le dictateur Salazar voulait qu'elle vienne s'installer au Portugal. Il était prêt, bien entendu, à l'accueillir. Elle n'a pas voulu quitter la France pendant l'occupation.
Et elle a fait flotter le drapeau portugais en signe de neutralité sur le château de Bellevue au Chesnay pour bien montrer qu'elle ne prenait pas parti. Pendant l'exode, évidemment, elle était partie en 1940, rejoindre Bordeaux. Et puis après l'occupation, elle a, vous savez, elle a fait une chose, les gens ne le savent pas forcément. Elle a accueilli beaucoup de gens dans son château du Chesnay, des gens qui avaient des problèmes avec la Gestapo. Elle les accueillait volontiers dans son château du Chesnay. Donc elle n'était pas tout à fait neutre, mais on savait qu'elle était profondément anti-nazie, en tout cas.
Oui, et comme elle était néanmoins la reine Amélie de Portugal, on ne venait pas tellement l'importuner, il faut
absolument
bien le dire. Elle était une grande figure.
Les gens la respectaient infiniment. Elle n'était pas très commode,
disons-le aussi, quand même.
On peut le dire aussi. Mais c'est vrai qu'on est nostalgique. Il y a des images qui existent de son retour au Portugal en 1945. Parce que je pense toujours à cette image quand elle va se recueillir à Saint-Vincent de Fora, Saint-Vincent hors les murs, à Lisbonne, devant les tombeaux de son fils, de son mari et de ses deux fils. Elle avait tout perdu. Vous savez, il y a un chiffre, elle est morte à 86 ans, elle a vécu heureuse 83 ans. 1908, c'est l'assassinat de son mari et de son fils aîné. 43 ans, elle est restée veuve et malheureuse 43 ans.
Exactement, à mi-temps, en quelque sorte. Moi, Amélie, dernière reine de Portugal, c'est le premier roman de Stéphane Bern, enfin réédité chez De Noël.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Florent qui vous interroge cet après-midi, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Voici sa question. Quel est le rôle des dames d'honneur d'aujourd'hui et leur rôle d'origine?
Alors aujourd'hui, je laisserai tout à l'heure Stéphane répondre à la question. Il est beaucoup mieux placé que moi pour le faire. Autrefois, les dames d'honneur, d'abord on ne les appelait pas dames d'honneur. Dans l'étiquette de l'ancienne France, depuis la reine Anne, l'ancienne Anne de Bretagne dont nous parlions hier, on parlait des dames du palais de la reine. Alors il faut bien comprendre que ces dames du palais, qu'on va appeler peu à peu les dames d'honneur, sont des dames de la noblesse. Elles font partie de la cour, elles ne font pas partie du tout des domestiques, à quelque rang que ce soit. Rien à voir avec les femmes de chambre, les femmes de garde-robe, même les dames d'atour qui font en quelque sorte le lien entre les deux. Les dames du palais accompagnent la reine. À quoi servent-elles? Entre nous, soit dit, pas grand-chose. La reine est avec ses dames, tout simplement parce que vous imaginez, ce serait un peu triste de voir une reine arriver comme ça toute seule.
À l'époque,
elles avaient aussi une utilité, c'est-à-dire un rôle qui était clairement défini aux différentes cérémonies du lever, du coucher, etc. Est-ce qu'il y a encore des dames d'honneur aujourd'hui?
Oui.
Oui.
Les Anglais les appellent ladies in waiting, ça veut dire qu'elles doivent attendre. Mais cela dit, les dames d'honneur existent, elles n'appartiennent plus à la noblesse, sauf en Angleterre.
C'est la différence.
C'est la différence. En Angleterre, il y en a encore quelques-unes, mais surtout, on les prend épouses de grands diplomates, etc., des femmes qui savent se tenir. Et surtout, elles ont l'argent, elles ont le porte-monnaie, elles ont le mouchoir, le sac de rechange, les gants, et elles portent les bouquets et les cadeaux que les gens dans la rue tendent à la souveraine.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles aident tout simplement la souveraine, qui souvent croule un peu sous la tâche,
et
il faut bien
cadeaux.
Dire. Et sous les cadeaux. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Désormais, Stéphane Bern viendra tous les jours pour répondre aux questions des auditeurs.